Donc, notre premier sujet du jour, la fondation Émergence, en fait, bien que ces thérapies de conversion soient illégales au Canada depuis décembre 2021 et au Québec, bien, ça continue de maintenir la manchette. Ces pratiques, on sait, visent à changer l'orientation sexuelle ou l'identité ou l'expression de genre d'une personne. Alors, la fondation Émergence, vous connaissez, je vais me permettre quand même de vous la présenter. C'est un organisme à but non lucratif qui œuvre contre l'homophobie et la transphobie à travers divers programmes de sensibilisation. Il y en a plusieurs, dont la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, qui a été créée ici, je le répète, au Québec, qui a lieu le 17 mai de chaque année. La Fondation Émergence, donc, lance une campagne de sensibilisation pour en finir avec les thérapies de conversion. Et pour en parler, on reçoit Laurent Brault, directeur général de la Fondation Émergence. Bonjour.
Bonjour, Denis Martin.
Alors, je sais qu'on s'est déjà posé la question, on utilise toujours les pronoms « il » et les accords masculins avec toi.
Oui,
Tout à fait.
exactement.
Alors, justement, de quoi on parle concrètement là, quand on parle de thérapie de conversion?
Initialement, il y avait plusieurs définitions de thérapie de conversion. Donc, avant de lancer notre programme, il fallait d'abord consulter Éduqualoi, Justice Pro Bono, la Chaire de recherche sur la diversité sexuelle et de genre, ainsi que les différentes définition juridique parce que il n'y a pas de jurisprudence pour l'instant en lien avec des poursuites pour des thérapies de conversion. Donc la définition, elle est variable, mais celle qu'on utilise, c'est celle qui est plus collée sur une définition sociologique, celle collée plus sur le vécu des gens et un petit peu moins juridique, mais il y a toutes sortes de nuances. Mais dans l'ensemble, tous les partenaires s'entendent pour dire qu'une thérapie de conversion, c'est une pratique, un traitement ou un service qui vise à modifier, réprimer ou réduire soit l'orientation sexuelle, l'identité de genre et ou l'expression de genre d'une personne. Donc, autrement dit, on vise à rendre, pour faire en termes très simples, c'est rendre une personne homosexuelle hétérosexuelle ou rendre une personne trans cisgenre. Donc, c'est ça le but ici, là.
Et c'est toutes sortes de procédés. J'ai lu tellement de choses et tellement d'horreurs sur comment ces choses-là se font, mais je pense qu'on peut le dire, il y a des traitements de choc, il y a des traitements très, très, très durs qui peuvent être établis. Alors, ça, là, ce qu'on appelle, moi, personnellement, je me permets de dire que j'appelle ça de la torture, là. Ça a été banni par les gouvernements. Alors, pourquoi la Fondation revient là-dessus avec cette campagne?
Souvent, les changements de mentalité se font soit par de la sensibilisation, puis ensuite les lois changent, mais parfois c'est l'inverse, c'est les lois qui changent et ensuite les mentalités qui changent. Donc, on est dans le deuxième scénario. Il y a eu une belle avancée au niveau juridique. Il faut le rappeler, là, le Canada est le 11e pays à interdire les thérapies de conversion, 11e seulement, là. Donc, on a changé les lois et c'est tant mieux. Maintenant, il faut aider les policiers, les services de la santé et des services sociaux, les milieux scolaires à repérer les thérapies de conversion, les identifier, les déceler et ensuite intervenir, soit lorsqu'elles sont faites ou pour vraiment les prévenir. Donc, c'est vraiment pour accompagner les différents milieux, pour vraiment les identifier et prévenir. Et aussi, notre programme, on aura l'occasion d'en parler, mais on souhaite aussi aider les victimes des thérapies de conversion ainsi que leur entourage.
Justement, parlons des victimes. C'est quoi l'impact qu'on peut dire sur les gens qui ont subi ces thérapies de conversion?
Ah, ça peut être très, très variable. D'ailleurs, j'aurais tendance à dire qu'il y a un type de thérapie par vécu de chacune des victimes. Là, c'est des histoires très, très différentes l'une de l'autre. Mais le principal impact, c'est l'impact psychologique, là, c'est la honte de soi. Faut comprendre que les thérapies de conversion prennent forme parce qu'il y a une pression sociale. Il y a quand même de l'homophobie et de la transphobie qui est ambiante dans la société. C'est le sentiment d'être anormal, d'être marginal, d'être différent et que ça soit associé à quelque chose de mal. Donc, les thérapies visent ici à corriger ça, en faisant croire aux gens qu'ils peuvent être une autre personne, qu'ils peuvent devenir hétérosexuels, qu'ils peuvent devenir cisgenres. Donc, c'est vraiment, ici, on capitalise sur un sentiment de mal-être et on l'amplifie. Donc, l'impact principal est vraiment l'impact psychologique, mais aussi il y a des thérapies qui ont des impacts physiques. Quand on parle, par exemple, c'est sûr, ça se pratique un peu moins, là, mais la lobotomie a existé quand même pendant longtemps. On parle de traitements hormonaux pour augmenter la libido, hein. Moi, on va me donner plus de testostérone pour que un jour je sois attiré envers les femmes. Donc, c'est un peu cette logique-là, mais je veux dire, il y a quand même, on parle de camp de masculinité, de féminité, on parle de thérapie par aversion. Donc, on a tous vu des films là, où on associe une douleur à des images et tout ça. Donc, c'est un peu l'idée là
Oui. Mais moi, j'ai lu quelque part, là, je vais le dire parce que je pense que les gens vont peut-être comprendre où on, chez les gars, surtout, on attachait des électrodes aux testicules et à chaque fois qu'il avait une réaction à une image masculine d'un homme, on lui envoyait un choc électrique.
Ben, ça... J'ai mal.
Oui, juste à y penser. Donc,
Oui, juste à y penser.
oui.
Oui,
Bon.
on rit, mais c'est des choses qui existent, là.
Et qui sont les gens qui font ces thérapies-là? Est-ce qu'on peut associer ça beaucoup à des groupes religieux?
Ah ben, c'est sûr que les groupes religieux ont vraiment leur responsabilité ici. Donc, disons, c'est ce qui nous vient souvent en tête, là, les exorcismes, par exemple. Ça, on en a vu quand même plusieurs. Dans les victimes qui nous ont témoigné. Donc oui, les groupes religieux, c'est important. Mais il faut vraiment pas négliger les intervenants de la santé et des services sociaux. Donc l'ONU dit que c'est pratiquement une majorité des thérapies de conversion qui sont faites par des intervenants de la santé. C'est vraiment préoccupant. Je mentionnais le réseau de la santé en général comme public cible de notre campagne, mais tu sais, on peut parler des ordres professionnels. Les médecins, les infirmières, donc c'est très large. C'est vraiment, souvent, je pense que beaucoup d'intervenants s'en rendent pas compte et ils ont des biais, ils ont une méconnaissance des réalités des personnes LGBTQ+, ce qui les amène à un moment donné à voir le patient comme une pathologie qu'il faut traiter et changer.
En quoi donc va consister cette campagne?
C'est une campagne qui a produit du matériel, affiches, dépliants, mais surtout une formation qui est disponible pour quiconque est intéressé. C'est une formation en personne ou en virtuel. Si vous êtes intéressé, vous pouvez évidemment écrire à la Fondation Émergence pour planifier la formation. Donc, dans la formation, il y a toujours une mise à niveau, là. Qu'est-ce que c'est les réalités LGBTQ+, c'est quoi l'orientation, l'identité, l'expression de genre? Mais on avance quand même plus loin dans la formation où on explique c'est quoi les thérapies de conversion et on donne aussi les aspects juridiques, on présente les ressources d'aide, il y a des mises en situation, puis évidemment, on donne les bonnes pratiques pour pouvoir prévenir et déceler les thérapies de conversion.
Je me pose la question, qu'est-ce que la science dit sur les thérapies de conversion?
Ben, les thérapies reposent vraiment sur l'idée que notre orientation sexuelle ou notre identité de genre serait comme un choix. Fait que quand on conçoit notre orientation sexuelle ou l'identité de genre comme un choix, ben, l'idée c'est de dire ben, tu peux choisir de devenir hétérosexuel ou cisgenre. Donc c'est un petit peu l'idée derrière. Répète-moi ta question, c'était.
Qu'est-ce que la science dit
Oui,
finalement?
ben, que ce n'est pas un choix. Donc,
Ouais.
ça ne sert à rien, les thérapies. Ça ne fonctionne pas. Toutes les personnes qui ont vécu des thérapies de conversion, qui nous ont témoigné, il n'y a personne à qui ça a fonctionné, ces
Ils sont
thérapies.
convertis puis ils sont déconvertis, je comprends.
C'est la science dit que les thérapies sont inefficaces.
Et au pire, en fait, inefficaces et puis au pire peuvent causer des dommages à la santé mentale.
Oui, totalement.
Il y a un livre, je ne sais pas si ça date d'il y a longtemps. Moi, j'ai lu ça, c'est un livre américain. Et la personne qui l'a écrit, peut-être quelqu'un qui nous écoute pourra nous le spécifier, mais ex-gay, they are none. Alors, des ex-gays, ça n'existe pas. Alors, c'est bon à savoir.
C'est une belle formule.
Une belle formule. Il me reste un petit peu de temps. J'aimerais savoir qui sont les partenaires, finalement, de cette campagne.
Ceux qui financent les bailleurs de fonds, il faut le mentionner, c'est Justice Canada via le fonds d'aide aux victimes. Donc, c'est à la suite de l'adoption, de l'interdiction fédérale. Il y a le ministère de la Justice par son bureau de lutte contre l'homophobie et la transphobie qui finance également cette campagne-là. Les partenaires, c'est principalement Éducalois, donc qui vulgarise d'une manière exceptionnelle tout ce qui concerne le juridique et les thérapies de conversion. Il y a Justice Pro Bono aussi, qui offre un soutien juridique pour les victimes. Donc, si vous êtes victime, vous avez été victime des thérapies de conversion, contactez Justice Pro Bono. Ils ont un service aussi de soutien psychosocial. Et la chaire de recherche sur l'homophobie et la transphobie, qui ont mené vraiment des recherches très, très pertinentes et très intéressantes sur le sujet.
Avant de te laisser, Laurent, je vais me permettre une autre petite question, parce que, bon, dans 2 mois, on s'avance tranquillement pas vite à la journée mondiale, cette fois-ci, de lutte contre l'homophobie et la transphobie. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut révéler dans vos plans pour cette journée-là, cette année?
Ah, je Très savais peu, je sais. Que tu allais me tirer les verres du nez, tout le temps. Denis Martin. Le 17 mai arrive, on travaille sur une campagne comme les années précédentes. Ce que je peux vous dire, c'est que ça va porter sur l'homophobie et la transphobie. Je peux pas révéler le thème tout de suite, même si j'aurais tellement goût pour toi de le faire. Mais ça va être une campagne avec un ton un peu différent. Les dernières années, on a vraiment ciblé et dénoncé les violences envers nos communautés. Cette année, on va prendre un ton un peu plus, peut-être un peu moins grave, mais tout autant pertinent. Puis on va dénoncer évidemment les différentes LGBTQ-phobies.
Bien, excellent. De toute façon, nous aurons, je vous le dis d'avance, tout le monde qui nous écoute présentement ou qui nous écoute en balado, nous aurons une émission spéciale justement, une balado spéciale le 17 mai. Parce que c'est un lundi, donc on est en onde, fait qu'on fera une émission spéciale cette journée-là.
Ça va me faire plaisir de venir.
Laurent Brault, directeur général de la Fondation Émergence, merci d'avoir été avec nous.
Merci.